Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens pour un nouvel épisode. Je m'appelle Benjamin Higgon et je suis avec mon cher cousin Maxime Georgel. Salut Maxime.
Salut.
Ça va bien Maxime?
Ouais, t'as vu, je fais comme toi, je réponds salut aux interviews à la radio.
Oh là là, bah, celle-là, il va me la ressortir tous les jours de ma vie. Et effectivement, je ne suis pas un habitué des interviews radio et j'ai eu le malheur de répondre salut à une interview. Mais voilà, on fait du progrès, on va de progrès en progrès. Et Maxime, on se retrouve...
De gloire en gloire.
De gloire en gloire, exactement. On se retrouve pour un nouvel épisode des Cousins Théologiens pour parler d'un sujet qu'on va aborder probablement régulièrement dans ce podcast, puisque le titre, c'est Les Cousins Théologiens. Donc on veut parler de temps en temps quand même de théologie. Mais aujourd'hui, le titre, c'est un peu différent, c'est « Pourquoi la théologie a-t-elle une si mauvaise image ?» On est tous les deux, on a un intérêt non caché pour la théologie, pour la lecture de livres, de choses à ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'on peut observer chacun de nous des réactions peut-être plus réservées par rapport à la théologie ou des objections. Et on voulait simplement prendre le temps de les examiner, d'y répondre et de prendre ça au sérieux pour s'assurer que notre étude de la théologie est la bonne. Et donc peut-être pour commencer, Maxime, tu peux nous donner quelques pistes, et j'en rajouterai probablement, des objections principales qu'on peut entendre à la théologie. Donc quand on parle de théologie, peut-être tu peux juste définir un peu ce qu'on entend par là, et ensuite donner quelques objections.
Ouais. Bah justement, je ne sais pas s'il faut le définir tout de suite, parce que ceux qui critiquent, je ne suis pas sûr qu'ils aient la même définition que nous. Mm. Mais en tout cas, les objections que j'ai pu entendre, ou des remarques, c'était... moi, c'est pas la théorie, c'est la pratique qui m'intéresse, la mise en pratique, les œuvres bonnes, etc. Ouais. J'ai pu entendre aussi, je me souviens d'une fois en particulier, mais il faut la théologie, etc. Ouais, d'accord, mais il faut l'esprit, il faut faire confiance à l'esprit. Faudrait pas que tout ça, tout ce qu'on apprend là, ça nous éloigne de ça.
Ouais. Donc voir la théologie comme quelque chose de sec, de voilà, qui serait vraiment
ouais, de sec et d'opposer à l'esprit,
ouais.
Quoi.
Ouais, d'opposer à l'esprit. Ouais. Ouais. Il y a une objection qu'on entend souvent, c'est que en fait, quand on pense à la théologie, quand on parle de théologie, souvent on assimile ça à des débats sans fin, juste des discussions, des querelles vaines, inutiles, des centaines de commentaires Facebook qui mènent à rien. Ouais, ça c'est une objection qu'on peut entendre. Ouais. Il y en a d'autres que tu vois ?
Non, là tout de suite non, mais ouais, les débats sans fin, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on entend aussi.
Ouais. Ou l'idée que c'est réservé qu'à des spécialistes peut-être, dire oh, mais ça c'est pas pour moi. Je suis pas assez. Assez
ouais, c'est peut-être une excuse ça, ou une vraie pensée que des personnes peuvent avoir.
Ouais. Et on va voir justement, on va essayer de répondre à quelques-unes de ces objections en montrant que c'est pas nécessairement la faute simplement d'un côté de la balance, mais il y a des dangers pour ceux qui font de la théologie et des dangers pour d'autres qui rejettent la théologie. Mais peut-être, ouais, je pense aussi à notre papy qu'on a en commun. Notre cher papy Charles, qui souvent nous répète « ne devenez pas des théologiens ». Et ça, sa grande crainte, c'est qu'on devienne des théologiens. Parce que,
il doit être réjoui du titre de notre podcast.
Ouais, exactement.
On est vraiment des petits-fils indignes.
Exactement. Mais voilà, parce que pour lui, la théologie, c'est vraiment être quelqu'un qui est dénué de l'aspect pratique, qui ne vit pas dans le quotidien des gens. Qui est simplement une tête pensante, mais qui n'a pas un cœur pour les gens et un cœur pour l'évangile. Donc ça, c'est des objections qu'on peut entendre.
Et peut-être, néanmoins, si vous rentrez dans le bureau de mon grand-père, vous verrez plein de livres de théologie.
Oui, effectivement. je ne suis pas en train de dire, c'est un bel exemple pour nous. Et d'ailleurs, on profite de ces livres qu'il nous donne gentiment, et, bien sûr. Et est-ce que tu penses que ces objections sont fondées ou pas? Ou peut-être tu pourrais répondre à quelques-unes de ces objections
Ouais, bah justement, la dernière fois que papy est venu chez nous, il m'a parlé un peu plus de ça, de l'expérience qu'il avait eue avec ce qu'il appelle la théologie, justement. Et c'était un moment dans sa vie chrétienne où il a vu, je crois, des amis se détourner de la foi à cause de théologiens. Et en fait, j'ai compris en discutant un peu plus que c'était des libéraux. Mmh. Et c'est des personnes, effectivement, qui ont le titre de théologien et qui sont réputés théologiens, mais qui ont fait, comme il le rappelle, beaucoup de mal à l'Église. Parce qu'ils ont détruit la foi, en fait. Ils ont compliqué la Bible, ils ont introduit des choses qu'elle ne contenait pas, et puis ils l'ont vidée de son contenu. Mmh. Et donc, ouais, il y a un vrai fondement à la mauvaise réputation que la théologie a pu avoir, en particulier, je pense, dans les générations qui nous précèdent.
Ouais. Ouais, non, ça c'est clair, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut observer. Ouais. Les mauvaises expériences font « Ah, mais si c'est ça, la théologie, j'en veux pas ». Peut-être un autre, peut-être c'est lié à ça, mais une autre objection qui se comprend, c'est que souvent on peut, et on avait parlé de ça dans un autre épisode, mal aborder la théologie. C'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à la théologie, ben on va commencer par les sujets chauds, par les sujets polémiques qui font débat et qui ne sont pas nécessairement les plus importants. Si on parle d'échelle de doctrine ou de hiérarchie de doctrine, comme on en avait parlé dans un autre épisode, on pourra mettre le lien. Et on ne va pas s'intéresser à ce qui est le plus central dans notre foi en premier, le plus central dans la Bible. Et du coup, on va simplement être dans des sujets qui sont polémiques, qui n'ont pas forcément un impact direct sur notre piété. Et ça, c'est un danger, du coup, d'être un peu refroidi dans notre étude de la théologie.
Ouais, exactement. J'en parlais encore aujourd'hui avec Étienne, un ami qui écrit sur le blog, sur le fait que souvent, je pense qu'on enseigne mal la théologie quand on commence. Par exemple, si on veut parler d'eschatologie, et ben on va commencer en te listant les différentes positions qui existent. Et du coup, ça commence tout de suite par des divisions, la théologie, tu vois ? Plutôt que d'essayer de te faire réfléchir sur un texte ou de te poser quelques questions ou de commencer simplement par le consensus. C'est ce qui serait plus encourageant.
Ouais, ce sur quoi tout le monde est d'accord.
Ouais, c'est ça. Souvent, on commence un cours en présentant les différentes positions. Je pense pas que c'est sage. Ça peut être responsable en partie de l'image qu'on a de la théologie.
Ouais, ouais. Tu parlais aussi en off là, du fait que les théologiens sont imparfaits.
Tu vois, j'ai même mis dans mes notes, les théologiens sont des guignols.
Non, alors ça, c'est la version Maxime Georgel.
Non, ce qu'on veut dire par là, c'est tout simplement, c'est qu'ils sont pécheurs et que ça devrait pas nous étonner, même si ça peut nous attrister. Que la théologie est une mauvaise image dès lors qu'elle est dans la main des hommes. Tout ce qu'on fait, on est capable de l'entacher et de le corrompre. Et c'est la théologie qui nous apprend ça, qui nous le dit. Et ça se confirme même dans le domaine de la théologie, dans toutes les bonnes choses en fait que Dieu nous recommande et qu'il approuve. On est capable de le tordre et d'en faire quelque chose de dangereux. Ouais. Donc c'est aussi valable pour la théologie. Il y a des théologiens orgueilleux, il y a des théologiens qui manque d'amour, etc. Et je pense que c'est des choses qu'on a pu vivre aussi et sur lesquelles on doit être vigilant.
Ouais, exactement. Ouais, et c'est là où on est tous. C'est pas parce qu'on utilise une bonne chose pour la dévier qu'on doit rejeter cette chose. Et effectivement, là, tu soulignes un vrai danger que toi et moi, on a, avec lequel on doit lutter et avec lequel chacun de nous doit lutter, de pas faire de l'étude de Dieu une idole, enfin de l'étude en elle-même, mais que ça soit Dieu le sujet de notre adoration. On en parlera un peu plus après. Mais peut-être, du coup, pour aller plus loin et dire un peu plus de manière explicite ce qu'on entend, nous, par théologie, et ce qu'on veut entendre par théologie, pourquoi alors continuer à faire de la théologie comme nous on l'entend, alors qu'on est conscient de ces problèmes ? Et pourquoi, au final, la vraie théologie, et définir peut-être ce qu'on entend par là, c'est loin de tout ça. Tu pourrais nous aider un peu là-dessus, Maxime ?
Ouais, je pense que la vraie théologie, c'est simplement étudier qui est Dieu, ce qu'il a fait et ce qu'il promet. Voilà, ça pourrait être une définition simple, ce qu'il a fait, ce qu'il promet et ce qu'il est. Et à partir de là, en théorie, il n'y a rien de mauvais là-dedans, il n'y a rien de dangereux, il n'y a que du bon, que du bénéfice. Ce qu'on peut faire, je pense, qui pourrait être intéressant pour nos auditeurs, c'est de leur donner déjà des réponses à ces objections, sur la base de ce qu'est la juste théologie, et peut-être des conseils aussi pour éviter de tomber dans les travers qu'on a évoqués. Par rapport au bon, on a déjà évoqué une solution, par rapport au fait que la théologie soit des débats sans fin. L'idée de commencer par les choses consensuelles, les choses en tout cas que tous les chrétiens dignes de ce nom reconnaissent. Mais il y a d'autres choses aussi, je pense, d'autres bons conseils à prendre. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui vient te voir et qui te dit « Ah non, moi la théologie », quelqu'un qui sait que tu fais des études en théologie, « Non, moi la théologie, je préfère la pratique ». Comment tu réagis, toi ?
Ouais, je pense qu'on pourrait dire que on peut pas. Enfin, toute pratique de ce qu'on fait a pour arrière-plan des vérités. Et donc, si on veut mettre en pratique dans notre vie chrétienne des choses, ça se base sur choses qu'on croit, sur la théologie au final, sur des choses qu'on croit à propos de Dieu, sur des choses qu'on croit à propos de ce que la Bible enseigne. Et donc, on ne peut pas faire de clivage entre la pratique et la théorie, entre l'étude de Dieu et la mise en pratique de qui Dieu est. C'est simplement, plus on apprend comment Dieu est, plus on apprend combien Dieu est un Dieu glorieux, combien Dieu est un Dieu qui sauve, combien Dieu est un Dieu aux merveilles infinies, plus on sera motivé à vivre pour lui dans notre vie tous les jours, plus on sera motivé à l'adorer. Et donc, il n'y a pas lieu de dire que la théologie est ennuyante, parce que c'est l'étude de Dieu. Et il n'y a rien de plus passionnant que étudier Dieu, que étudier la personne la plus importante de l'univers, c'est pas quelque chose qui, enfin, c'est l'activité la plus palpitante qui soit, et c'est quelque chose de captivant. Ouais.
Et si on le ressent pas comme ça, parce que c'est fort possible qu'on le ressente pas comme ça, soit tout de suite, soit à divers moments de notre vie, c'est que c'est un quelque chose dont on doit se repentir en fait. C'est pas le sujet qui est ennuyeux, c'est nous qui avons un problème, ou alors la façon dont il est présenté. Mais le sujet de l'étude de Dieu en soi, c'est ce pourquoi on a été créé, hein, mieux connaître Dieu dans toute chose, dans notre intellect, en pratique, dans nos émotions, etc. Donc c'est vraiment pas le sujet qui est un problème.
Ouais, exactement. Et peut-être par rapport à ça, tu disais tout à l'heure qu'on peut, certains disent, voilà, non, moi je suis dans l'esprit et pas dans la lettre, en citant 2 Corinthiens 3. Bah déjà, on pourrait dire que c'est pas de ce dont on parle de Corinthiens 3, que c'est vraiment dans un contexte d'alliance. On va pas rentrer dans le débat maintenant.
Hein, bah ouais, tu fais de la théologie là.
Exactement. Non, mais enfin le verset lui-même, le verset 6 de chapitre 3 le dit lui-même, mais surtout dire que.
Ça, c'est ça le problème avec les théologiens. Tu leur balances une objection toute simple, ils te répondent par un truc compliqué.
Ok, bah alors je réponds de manière très simple. Il n'y a pas lieu, bibliquement parlant, de séparer l'esprit de la parole. L'esprit œuvre en utilisant la parole. C'est l'esprit qui donne vie à la parole. Et donc, on ne peut pas. Voilà, si on se dit, mais moi, je veux vivre ce que l'esprit me fait vivre, mais ça ne peut pas se passer sans la parole, de manière biblique.
Oui, et l'esprit conduit. Il faut savoir que c'est l'esprit qui a inspiré la Bible. C'est, la Bible dit elle-même, elle est soufflée de l'esprit.
Exactement.
Et donc, j'aurais du mal à comprendre pourquoi l'esprit nous dirigerait autrement aujourd'hui que tel qu'il a révélé Dieu. Donc on a tout intérêt, si on veut être plus proche de ce que veut l'esprit, d'étudier la Bible, en fait.
Ouais. Non, exactement.
Et par rapport aussi à l'opposition avec la mise en pratique, j'avais écrit une punchline dans un de mes articles. Donc c'est comme si on me disait, opposer mise en pratique et étude de la théologie, c'est comme si on me disait, sois un médecin au lieu d'étudier la médecine. Et c'est un peu ça, en fait. C'est l'idée, ah oui, mais arrête la tête dans les bouquins. Oui, mais je veux être médecin, je veux m'y préparer. Ouais. Et la vie chrétienne, elle nécessite une préparation qui se passe par la prière, par l'étude, et donc aussi par la théologie.
Ouais, non, exactement. Ouais. Et puis, c'est pas. Voilà, on parlait tout à l'heure du fait de penser que c'est réservé à certains spécialistes, etc. Alors, bien sûr, c'est vrai que certains vont pousser ça de manière plus académique, et on a besoin de gens qui vont écrire des ouvrages, qui vont répondre aux libéraux, qui vont défendre la vérité.
Ouais, et c'est pas donné à tout le monde, je pense que c'est important de reconnaître. Parce qu'il y a une phrase connue, hein, nous sommes tous des théologiens, c'est Sproul qui dit ça, il y a du vrai dedans.
Ouais.
Mais c'est important de reconnaître aussi qu'il y a des gens qui ont un rôle de théologien particulier au service de l'Église, et c'est un rôle particulier. Mais il faut pas les mépriser, il faut certainement pas les décourager en leur disant « moi c'est la pratique », etc. Parce que, bah non, ils ont été appelés par Dieu à faire ça aussi.
Ouais, exactement. Non, c'est clair. Et puis comme tu dis, donc c'est accessible à tout le monde dans la phrase de Sproul là. Et je pense qu'il veut montrer par là, c'est que c'est pas réservé. Enfin, c'est simplement quand on parle, quand on déclare des choses à propos de Dieu, ben on est en train de faire de la théologie. On est en train de dire des vérités à propos de qui Dieu est. Quand on est en train de lire notre Bible le matin, on est en train de faire de la théologie. Et dans un sens, enfin, tu vois, une des objections qu'on peut avoir, c'est que c'est trop compliqué. Ça fait chauffer le cerveau, mais c'est normal dans un sens. Si on parle d'étudier Dieu, bah c'est normal que c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui est bien au-dessus de nous.
Et Paul, final, il y a peut-être une paresse intellectuelle aussi. Je lance pas ça comme accusation, hein, mais je pense que ça peut être aussi une des raisons. Faut pas s'attendre à. C'est pas parce que l'Évangile s'adresse à tous que ça doit pas nous challenger intellectuellement de temps en temps, nous faire réfléchir, tu vois.
Ouais.
La Bible, elle nous encourage aussi à réfléchir. Parfois, il faut se creuser la tête sur des choses.
Ouais, exactement.
Je pense pas que ce soit un problème de se creuser la tête sur des choses, quoi.
Non, c'est clair. On doit faire chauffer le cerveau, on doit brancher les neurones. Et j'avais juste cité Paul qui dit dans Romains 11, enfin, qui reconnaissait ça, le fait que l'étude de Dieu nous dépassait. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent, que c'est pas à nous de creuser. Mais il y en a d'autres qui sont l'étude de Dieu, qu'on peut creuser. Et c'est comme un puits de connaissance infinie. Et c'est encourageant de voir que quand on fait chauffer le cerveau pour apprendre quelque chose à propos de Dieu, on ne regrette pas. Moi, je suis vraiment encouragé de voir, par exemple, ce qui se passe avec les formations Transmettre à Paris, où il y a des jeunes, des gens d'un peu partout qui viennent toute une journée, le samedi, de 9h à 19h, faire chauffer leur cerveau, apprendre des choses.
Et d'ailleurs, souvent, ils reviennent. Preuve que ça ne doit pas être si ennuyant que ça.
Oui, exactement. Ils reviennent, ils prennent goût à ça. Et de voir
même quand ils ont écouté Benjamin Hagen.
Oui, exactement. Alors, ça, c'est vraiment la grâce, quoi. Mais non, mais de voir qu'ils ont vraiment soif et qu'ils grandissent, c'est super encourageant. Maxime, tu avais d'autres choses à dire pour cette question-là ? Je ne sais plus trop où on en est dans l'ordre. Là, mais...
Moi, j'ai noté encore un truc, c'est comme ça en passant, mais c'est l'idée que, on en a parlé, hein, quand le fait que Dieu donne des théologiens à son Église, et c'est le fait que, oui, c'est vrai qu'il y a des théologiens qui ont fait du mal à l'Église, qui ont fait rentrer des hérésies, et c'est des mauvais théologiens qui ne sont pas dignes de ce nom. Mais il faut noter aussi que les théologiens ont fait beaucoup de bien, c'est souvent eux qui ont défendu la foi chrétienne quand elle avait des attaques très sérieuses dans la culture ambiante, dans les courants philosophiques ambiants, et je pense que tous ceux qui ont fait un peu d'histoire de l'Église se rendent compte qu'on doit beaucoup aux théologiens. L'idée, c'est pas de les mettre sur un piédestal, mais de reconnaître que c'est un vrai service dans l'Église, un vrai ministère, et qu'on doit pas le mépriser.
Ouais. Non, super. Merci Maxime pour toutes ces réflexions. Peut-être un article super à mentionner que tu avais traduit il y a quelques années. Ça s'appelle « La théologie est-elle devenue ton idole ?» C'est disponible sur Par la foi et Le Bon Combat, je crois, les deux. Mais en tout cas, sur Par la foi, on mettra le lien depuis Par la foi. Et c'est vraiment un super article à lire pour s'assurer que notre approche de la théologie est la bonne et qu'elle nous pousse à nous rapprocher de Dieu, qu'elle nous pousse à grandir dans la grâce, à une meilleure appréciation de l'Évangile.
C'est Marshall Segal et il donne 9 questions que je vous conseille vraiment à lire et à méditer. On vous laisse avec ça. L'idée, c'est que vous puissiez, si vous êtes déjà dans la perspective de faire de la théologie, etc., vous poser des questions et éviter les pièges dans lesquels nous, on a pu tomber ou d'autres avant nous aussi.
Ouais, exactement. Mais que tout cela, en tout cas, nous encourage à mieux creuser la parole, à mieux grandir dans notre appréciation de qui est Dieu et à mieux l'adorer comme il doit être adoré dans notre vie de tous les jours. Merci Maxime. Vous pouvez suivre Maxime sur parlafoi.fr et moi-même Benjamin sur christemavie.fr. Et à très bientôt pour un nouvel épisode des Cousins Théologiens.
À bientôt.